France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, ne l'appelez plus jamais Money France. La France, elle l'a laissé tomber. Ou la descente aux enfers d'une entreprise centenaire. Pour ceux qui ont vécu les années 70, Money France évoque instantanément une marque, un logo et un maillot, celui de la S Saint-Etienne, dont l'entreprise était le sponsor. Du temps de sa splendeur, Money France, c'est 64 magasins à travers la France et 4000 salariés. Pionnier de la vente par correspondance depuis 1885, 30 000 références sont disponibles dans son catalogue avec ses plus grandes spécialités, fusils de chasse, machines à coudre et bicyclettes. Et puis, il y a aussi le chasseur français qui se vend à plus de 800 000 exemplaires, ce qui fait rêver aujourd'hui. Mais le premier choc pétrolier de 1973, l'ouverture du marché à la concurrence internationale et le déficit d'investissement vont plonger l'entreprise dans une zone de turbulence. À la fin des années 70, elle est proche du dépôt de bilan et devient un symbole de l'affaissement de notre industrie. Tout le monde a son plan pour sauver la vieille dame de Saint-Étienne, y compris Bernard Tapie, mais personne n'est d'accord, et surtout pas le gouvernement de Raymond Barre, ni le maire communiste de la ville, Jacques Sanguedols. Notre invité aujourd'hui, Pierre Labardin, professeur des universités, directeur de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, à La Rochelle, et rédacteur en chef adjoint de la revue Entreprises et Sociétés. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
1er juin 1979. Une question agite depuis plusieurs jours le monde du foot et bien plus encore. Quel club Michel Platini va-t-il choisir? La nouvelle pépite du foot français qui va fêter ses 24 ans et qui quitte Nancy, son club formateur, est très courtisé. L'Inter de Milan, le Bayern de Munich, le FC Nantes ou encore le PSG sont sur les rangs. Mais c'est un club mythique qui rafle la mise. Grâce à un petit montage financier et une caisse noire, l'ASSE, les Verts, Saint-Étienne. Platini, fils d'immigrés italiens venu travailler en Lorraine dans les mines de fer et dans la sidérurgie, s'exprime sur son choix devant une caméra de télé. Le jeune joueur a la voix cassée quand il répond à l'inévitable journaliste football d'Antenne 2 à l'époque, Thierry Roland.
Michel Platini sera vert la saison prochaine. Je crois que en faisant ça, vous faites plaisir à tout le monde parce que vous avez vu, il y avait eu des référendums même qui ont été faits, notamment dans France Football 2, et le public français voulait vous voir en vert.
Oui, c'est évident, mais ça n'a pas énormément contribué à ce que j'aille chez les Verts, parce que avant toute chose, le choix que je faisais était très important. Et ce qui comptait le plus, c'était que je sois bien dans l'équipe dans laquelle j'irai. Et c'était le plaisir, quand le matin, de se lever et de dire « bon, ben, je suis bien là ».
Bien, mais quel rapport entre le transfert de Michel Platini et la fin de l'entreprise Manu France ? Eh bien d'abord, ce maillot vert, mythique, avec le sponsor, Manu France, donc. Et puis le footballeur devient le lien entre deux régions industrielles en crise, la Lorraine et le Forez. Crise de la sidérurgie, fermeture des mines et des usines. Dans ces terres ouvrières, le foot apporte du baume au cœur à la population. Le temps d'une soirée, on peut oublier le chômage, on peut rêver devant les épopées de son équipe, telles que la campagne des Verts de 1976 en Coupe d'Europe. Cette même année, un autre Michel, lui aussi fils d'immigrés italiens, réconforte un peu les Français en cette période de crise, et lui, c'est par le rire, à 35 ans, Coluche présente un nouveau sketch intitulé « Le délégué syndical ».
C'est l'histoire de France qu'on raconte. Vous avez par exemple Lip, là, Boussec, là, Manu France. Ne m'appelez plus Manu France. La France est mal laissée tomber, et un Zorro qui va arriver. Parce que le maire de Saint-Étienne, où il y a Manu France, c'est un maire communiste. Il ne savait pas pourquoi il avait été élu aussi facilement. Eh bien, il vient de comprendre, là. Il a fait « Bon sang, mais c'est bien sûr !»
Ne m'appelez plus Manu France, une référence directe à une chanson de Sardou, « Le France », sortie en 1975, où il chante « Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber ». Le chanteur dénonce l'abandon par le gouvernement du paquebot national, qui sera vendu ensuite à un armateur norvégien. Il est intéressant de noter qu'à l'époque, la CGT et le Parti communiste français saluent la chanson. En 79, le PCF est encore un parti fort. 2 ans plus tôt, aux élections municipales, il a remporté 72 villes de plus de 30 000 habitants, dont Saint-Étienne, administrée par un autre immigré italien, décidément résistant, déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacques Sangodols, qui était élu grâce à une promesse, pas un licenciement chez Manu France. Et pourtant, en cette année 79, le combat pour la sauvegarde des emplois est plus rude que jamais. Mais sauver Manu France, c'est plus que secourir une entreprise, c'est préserver l'un des symboles de la ville. Alors quittons la fin des années 70 et ses Michel célèbres pour remonter le temps à la fin du 19e siècle, à l'époque où Manu France était encore la manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne. Le 29 mai 1898, la ville est en effervescence. Le président de la République, Félix Faure, est en visite officielle. Cela fait près de 50 ans qu'un chef de l'État ne s'est pas rendu dans cette cité minière au sud-ouest de Lyon. Alors on a repeint en blanc les murs salis par le charbon. Félix Faure a l'honneur d'être accueilli par 101 coups de canon. Le lendemain, le maire est invité pour un banquet dans le grand hall de la manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne. Au menu, entre autres, truite du lac de Montrachet, sel de Rennes à la Talleyrand, granit au Grand Marnier, faisan de volière truffé, accompagné de moutons Rothschild 1883 et de champagne Louis Roller, le tout sans modération cette fois. Le banquet est organisé par Étienne Muard et Pierre Blachon, les fondateurs de l'entreprise, fiers de montrer au président leur usine. Il faut dire que tout réussit à ces entrepreneurs qui ont fait fortune en se lançant dans la production de fusils de chasse et d'une nouvelle invention, la bicyclette. Ils produisent, mais ils vendent aussi, grâce à une autre innovation, un catalogue de vente en ligne baptisé le Tarif Album, distribué dans toute la métropole, mais également dans l'Empire colonial français. Lors de l'Expo universelle de Saint-Louis aux États-Unis en 1904, Étienne Mimard, qui se rend sur place, explique. Lorsqu'en 1885, nous prîmes en main l'exploitation de la manufacture française d'armes, son chiffre d'affaires annuel était de 350 000 francs et elle employait un personnel de 25 personnes. Eh bien aujourd'hui, le chiffre d'affaires est de 8 millions et le personnel de 1750 personnes. Jean Gardette, ajusteur rentré dans l'entreprise en 1914, affirme que les conditions de travail étaient bonnes, contrairement aux autres usines de la région. D'ailleurs, on ne dit pas qu'on travaille à la manufacture, on dit simplement chez Mimard.
On était fiers de travailler chez Mimard. D'abord, on faisait que 9 heures. C'était ça le principal, une heure de gagner. Et puis, c'était la propreté, parce qu'il y avait beaucoup d'usines à ce moment-là. Ça laissait à désirer, ça, la propreté. Tandis que là, il y avait une propreté vraiment merveilleuse, puisque les établis étaient lavés tous les samedis, puis on avait un vestiaire splendide, avec robinet d'eau froide et d'eau chaude, et un placard pour vos bleus, et un placard pour vos affaires de ville.
De bonnes conditions, mais une discipline quasi militaire. Le patron veille à ce que tout soit d'équerre. Il passe parfois de son hôtel particulier aux établis de l'usine pour vérifier qu'aucun bleu de travail n'y traîne. Et égare à l'ouvrier qui égare ses affaires. Il doit les récupérer dans le bureau du patron avec une petite amende en prime. Mimard applique une division précise du travail avec les cadres en blouse blanche, les armuriers avec tablier gris en cuir, les ouvriers de fabrication en bleu travail et les ouvriers professionnels en blouse grise. Tout est pensé dans cette usine. Alignement des établis, parallélisme des machines. Il y a quand même une section de gymnastique, une chorale et une section de mandoline pour se divertir un peu, sans compter les grands banquets de fin d'année. Différents modèles d'armes de chasse sont fabriqués, le fusil simplex et le robuste, le pistolet le français, mais aussi un modèle de machine à coudre baptisé Omnia. Quant au slogan de l'entreprise, il est « bien faire et le faire savoir ». Les armes, les bicyclettes et les machines à coudre sortent alors par milliers des usines. Mais la manufacture vend de nombreux autres produits dans son catalogue baptisé Tarif Album. Avant la Redoute et les Trois Suisses, il s'impose dans de nombreux foyers français avec des articles de chasse, de pêche, mais pas seulement. Manu devient une institution. Dans ces trois archives, écoutez tour à tour Alexandre Vialat, Bernard Lavillier et Claude Pieplu évoquer le catalogue ou en lire quelques lignes.
Le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne vise deux clients, l'explorateur et le bureaucrate. Alors il y a six pages d'essuie-plumes et six pages de casques coloniaux, de chapeaux melons à trépied qu'on pose sur sa tête.
Le catalogue Manu France, c'était exotisme pour nous les mômes. Hein, moi. Ce qui était extraordinaire, c'était l'abondance. Il y avait des hameçons de pêche, mais il y en avait 20 pages. C'est incroyable. Alors effectivement, il y avait ce côté réussite sociale. Si tu es un ouvrier et que tu gagnes tant, tu vas avoir une lessiveuse de temps. Mais plus ton niveau de vie est ta condition, tu pourras te payer celle plaquée or qui est à la fin. Je veux dire, tout était dit là-dedans.
Le protège-corps invulnérable, représenté sur ses deux faces par les gravures ci-contre, est formé de lames d'un acier spécial extra dur et trempé. Si notre regretté président Carnot, le roi d'Italie, le président McKinley, etc., s'en étaient revêtus, nous n'aurions pas eu à déplorer leur assassinat. Protège-corps invulnérable complet, fait sur mesure, 500 francs.
Tiers-manche, fusée paragrêle avec explosifs. Voilà pour compléter la liste incroyable du catalogue Manufrance. En parallèle, l'entreprise édite un mensuel, Le Chasseur Français, qui, comme son nom l'indique, parle de chasse, mais aussi de pêche, de sport, de culture et d'élevage. Le Chasseur Français s'impose vite comme un titre de presse à forte diffusion et à plusieurs centaines de milliers de lecteurs. Il se distingue notamment par ses petites annonces matrimoniales, ancêtres des applications de rencontres. Florilège de ces annonces qui fleurissent tout au long du XXe siècle.
Avril 1904, jeune homme, 25 ans, sans relation, très belle situation, catholique, désire faire connaissance avec sourde et muette de bonne famille. Juin 1904, on demande pour fille mère de 45 ans, près de Paris, très affectueuse, monsieur âgé, très riche, simple, généreux, même laid, infirme ou impuissant. Mars 1920, monsieur bonne situation, sérieux, désire correspondre avec demoiselle ou veuve instruite, pratiquant masochisme ou goût semblable en vue mariage. Octobre 1946. Demoiselle, 22 ans, propriétaire riche gisement radioactif, possibilité exploitation très productive, épouserait réalisateur ou pharmacien. Octobre 1967. Célibataire, 52 ans, propriétaire, avoir, gentil, désir mariage, dame forte, si possible plus de 100 kilos. Janvier 1975, 47 ans, bien sous tout rapport, goût éclectique, douce, cherche riche parvenu ou truand artiste, 47-60 ans, vivant en Paris, Yvelines, pour union très heureuse, aristocrate s'abstenir.
Voilà, il y en a pour tous les goûts. Venons maintenant au 3 août 1937. En France, le Front Populaire a octroyé aux travailleurs français des améliorations des conditions de travail, semaines de 40 heures, congés payés. À Saint-Étienne, dans la manufacture de Mimard, les syndicalistes veulent donc obtenir pour tous les employés les avantages que procure l'accord, la convention collective de la métallurgie. Parmi les meneurs, on retrouve Marius Patineau, qui deviendra secrétaire d'État en 1945. Le jour J, il circule avec un sifflet dans les ateliers pour faire cesser le travail. Face à ce mouvement très suivi, stupéfait, Mimard adopte une position très dure. Sur les murs de l'usine, on peut lire des affiches qui dénoncent, je cite, « un vieillard respectable en proie à un orgueil d'empereur qui veut punir des vieux travailleurs qui ont peiné 20, 30 et 40 ans dans son usine et contribué à l'édification de son énorme fortune, la vindicte d'un vieil homme bouffi d'orgueil. » Ambiance. La grève dure 100 jours et l'occupation des locaux 47. Mimard licencie une grande partie de ses ouvriers. Finalement, c'est un tribunal qui tranche l'affaire en ordonnant la reprise du travail, la réintégration des personnels virés et une hausse des salaires. Mais ce ne sera pas sans conséquences. Rancunier et sans enfant, Mimard aurait pris la décision de ne pas léguer l'entreprise à ses salariés, mais à la ville de Saint-Étienne. Il meurt le 14 juin 1944 à l'âge de 82 ans. Il aura dirigé l'entreprise pendant près de 60 ans. Dans son testament, on peut lire « Je désirerais que les dépenses de l'État, qui malheureusement sont toujours trop limitées, soient complétées par les revenus de mon legs et que grâce à cela, par les subventions de la ville, l'école professionnelle de Saint-Étienne soit un modèle du genre. » Et de ville, qui se retrouve donc actionnaire principal d'une entreprise emblématique de son territoire, c'est une situation assez inédite en France. Mais ce qui est encore plus original, c'est que Manu France est un bastion de la CGT, alors que la mairie est à droite. L'entreprise est alors gérée par quelques familles d'actionnaires. Après la guerre, les affaires reprennent, on réimprime le catalogue, mais le délégué CGT, Christian Georges, explique comment Manu France a vécu sur ses rentes. Elle ne modernise pas ses usines, elle ne recherche pas de nouveaux marchés. Pire, ce sont des marchés qui s'évaporent, notamment dans le contexte de la décolonisation.
On laissait venir les clients à Manu France, mais on n'essayait pas d'aller les chercher. On ouvrait le tiroir, on prenait l'argent sans essayer d'en faire rentrer. On a réellement vécu sur un acquis, notamment du côté industriel, où la technique progressait rapidement et que nous, on n'investissait pratiquement pas. On préférait payer des impôts au gouvernement, distribuer des dividendes aux administrateurs, mais ne pas investir. À partir de 1964, on a senti que ça n'irait pas très loin.
De surcroît, Manu France est concurrencé par les fusils de chasse italiens et espagnols produits à bas coût et qui, assemblés en France, obtiennent quand même le label « Armes de Saint-Étienne ». Les années 70, traversées par deux chocs pétroliers, sont synonymes de déclin, pour tout le monde d'ailleurs. Mais paradoxalement, c'est à cette même époque que Manu France devient le sponsor maillot de l'équipe de foot de la ville, la SSE, les Verts, qui raflent 9 titres de champion de France en l'espace de 15 ans. Côté affaires, le ciel est moins clair. En 1975, pour la première fois depuis la crise des années 30, Manu France perd de l'argent. Le nouveau PDG, André Blanc, blâme ses prédécesseurs, qui selon lui n'ont pas assez investi et ont fait de mauvais choix stratégiques. Il veut donc restructurer cette entreprise qu'on nomme la vieille dame. Mais très vite, il doit faire face à des réticences. Les élections municipales arrivent et rappelons-le, la mairie de Saint-Étienne est actionnaire majoritaire. Le 11 mars 1977, TF1 fait le point.
À Saint-Étienne, 81% des habitants, selon un sondage récent, estiment qu'il fait bon vivre dans cette ville. Il y a les Verts, bien sûr. Pas ceux de l'écologie, ceux du football. Mais en période électorale, les 225 000 habitants sont sollicités par 4 équipes différentes, 4 listes si vous préférez. Bernard Chevalier, les municipales à Saint-Étienne.
Deuxième grande ville de la région Rhône-Alpes, Saint-Étienne, 250 000 habitants. Tour à tour, la mine et la houille, les armes, les cycles, les rubans et bien entendu le football ont projeté ou projettent encore cette cité au rang des métropoles qui font parler d'elle.
Parmi les candidats, on retrouve Michel Durafour, centre droit, maire sortant et ministre du Travail. Voici son slogan, « Mieux vivre à Saint-Étienne », qui ressemble beaucoup à celui de l'Union de la gauche, « Changer pour vivre mieux ». Cette liste est menée par Jacques Sangodols, fils d'immigrés italiens. Il travaille à la mine à 12 ans, il est prisonnier de guerre à 19 ans, résistant à 21 et déporté à Dachau à 24. Il prendra la tête de l'Union départementale de la CGT à son retour en France. En 77, il y a déjà 9300 chômeurs à Saint-Étienne et l'emploi est un des grands thèmes de cette campagne. Alors Sangodols fait une promesse, si vous votez pour moi, il n'y aura pas un licenciement à Manu France qui emploie, rappelons-le, près de 4000 personnes.
Limite le décor. les cheminées d'usine ululent à la mort. La lampe du gardien rigole de mon style. La misère écrasant son mégot sur mon cœur a laissé dans mon sang la trace indélébile qui a le même son et la même couleur que la suie des crassiers du charbon inutile. Les forges de mes tempes ont pilonné les mots. J'ai limé de mes mains le creux des évidences. Des mots calaminés crachent des hauts fourneaux. Mes yeux d'acier trempés inventent le silence. Je me saoule à New York et me bats à Paris. Je balance à Rio et ris à Montréal. Mais c'est quand même ici que poussa tout petit cette fleur de grisou à tige de métal. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor. Les cheminées d'usine ululent à la mort. La lampe du gardien rigole de mon style.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Manu France, Requiem pour une industrie.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Dimanche 20 mars 1977, second tour des élections municipales. Comme de nombreuses mairies en France, Saint-Étienne bascule à gauche, avec l'élection du candidat communiste Joseph Sanguedols. 51,46% des voix, qui déclare, à propos du maire sortant, que M. Durafour soit battu à Saint-Étienne est un événement de portée nationale. Le vote des Stéphanois, c'est d'abord la condamnation de la politique antisociale du gouvernement Giscard Barre auquel participe Monsieur Durafour, je cite le nouveau maire. Le 30 avril, il s'exprime dans le JT de TF1 et il évoque bien sûr le dossier Manu France.
Et l'intérêt premier que nous mettons en avant et que nous défendrons, c'est le plein emploi, l'emploi. Nous refusons les licenciements Manu France comme ailleurs. La situation qui est difficile, il est vrai, découle de la politique menée par M. Blanc, qui avait été, il faut le rappeler, mis à ce poste par M. Durafour, ancien maire de Saint-Étienne, pour appliquer la politique que nous connaissons, c'est-à-dire de réorganisation de l'entreprise et de licencier un millier de travailleurs qui fabriquent en particulier le fusil de chasse, qui est un fusil d'ailleurs de très grande qualité et que le label étranger ne le remplacera pas.
Joseph Sanguedols refuse le plan Blanc du nom du PDG qui voulait restructurer l'entreprise en abandonnant notamment la fabrication d'armes pour se concentrer sur les trois autres secteurs de Manu France, vente par correspondance, réseau de magasins dans les villes et publication des chasseurs français. En septembre, des manifestations de salariés ont lieu où l'on peut lire sur les pancartes « Manu France doit vivre ». 4000 travailleurs et leurs familles, non au licenciement, oui au maintien du pouvoir d'achat, maintien de l'emploi. De fait, le tribunal de commerce de Lyon accorde un sursis à l'entreprise qui ne licencie pas. Bien, mais pour combien de temps? Les élections législatives approchent et Manu France devient l'enjeu national. Le président du RPR, Jacques Chirac, en meeting à Saint-Étienne, accuse, lui, la municipalité communiste de Saint-Étienne et de ne rien proposer pour sauver Manu France. Alors il déclare « Va-t-on licencier ? Je ne sais pas. Mais on pousse les travailleurs à faire valoir leurs droits à une retraite anticipée et l'on réduit les heures de travail et par conséquent les revenus. Ce n'est d'ailleurs que la stricte application du système en vigueur dans les pays d'au-delà du rideau de fer. Ce qui ne saurait étonner personne de la part des communistes. » qui s'obstinent, faute de connaissances économiques ou d'imagination, à s'inspirer des modèles les plus inefficaces. Fin de citation. Bref, ces gens-là n'ont rien à faire à la tête de la mairie de Saint-Étienne. 1er mars 1978, la valse des PDG se poursuit chez Manu France. C'est l'arrivée de François Gadoclet qui apporte un nouveau plan sur la table. Et une nouvelle fois, des licenciements sont prévus. Et de nouveau, les syndicats et la mairie communiste s'y opposent. Le 12 août, sur Europe 1, Gadoclet confirme les licenciements et la transformation de Manu France en trois sociétés. La vieille dame va être transformée en jeune fille ou jeune dame qui va avoir 3 ou 4 amants, dit-il. Il y aura donc une filière production, une autre pour la vente par correspondance et une dernière pour le chasseur français. Le 29 novembre 1978, le PDG s'exprime sur TF1. Il parle désormais de liquider la section production et de licencier 1300 salariés.
Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle que vous avez choisie ?
Il y avait deux ou trois solutions. La première, c'était de dire j'abandonne. Je me retire de la gestion de Manu France. Je me dégonfle. C'était ma démission. Il y avait une seconde, qui était peut-être celle que le conseil d'administration pouvait me démissionner. Et il y avait la troisième, qui était celle d'être conscient de mes responsabilités. M'apercevoir que nous avions l'imminence d'un licenciement définitif et total de tout le personnel de Manu France.
2600 salariés.
2662 salariés, qui auraient eu lieu la semaine prochaine. Et dire, est-ce qu'on peut encore sauver quelque chose ? On dit, vous allez licencier 1300 personnes. C'est vous aussi en sauver 1300 personnes. Et c'était vraiment l'unique, la seule solution.
Dans un contexte national de crise, avec la fin de la sidérurgie, des chantiers navals, du textile, des charbonnages, Manu France apparaît comme le symbole de la désindustrialisation du pays. Mais Manu France est aussi une fierté qui s'affiche sur le maillot de Saint-Étienne et une entreprise chez qui travaille un certain Raymond Poulidor qui développe de nouveaux modèles de vélos. Les syndicats et la ville parviennent une nouvelle fois à enrayer le plan du PDG qui repart sous les huées du personnel en janvier 1979. Mais Manu France est au bord du gouffre. Et le gouvernement de Raymond Barre ne s'empresse pas pour venir à sa rescousse. Le 20 février 1979, une immense manifestation est organisée dans les rues de Saint-Étienne. 100 000 travailleurs se sont mis en grève. La plus grande mobilisation depuis mai 68. Un mois plus tard, la CFDT envoie une fausse bombe en caoutchouc de 1,2 kg à des ministres et à l'AFP avec ce message. Manu France est une bombe dans la Loire. La mèche est allumée. Les pouvoirs publics ont encore la possibilité de l'éteindre avant que l'irréparable ne se produise. Les locaux de l'usine sont occupés. Et à Paris, en marge d'une manifestation, 6 salariés débutent une grève de la faim, expliquant à la presse. Depuis 2 ans, on nous promène d'élection en élection. On ne joue pas ainsi avec la vie de 2500 personnes. 2 ans, ça suffit. Il faut maintenant que l'usine redémarre. Et pour de bon. Le maire adjoint de Saint-Étienne, Paul Chauma, rejoint les grévistes de la faim pour la faire avec eux. Alors que notre région est sinistrée par le chômage, au même titre que la Lorraine et le Nord, le gouvernement se refuse à créer les conditions de redémarrage de Manu France, c'est-à-dire au maintien de près de 8000 emplois, proteste-t-il. Pour trouver un sursis, on crée alors une autre société qui embauchera et l'ancienne s'occupera des dettes. Le 2 juillet, c'est le prédateur le plus connu de l'époque qui débarque dans l'histoire. Un certain Bernard Tapie qui propose un nouveau plan consistant à séparer l'entreprise en plusieurs filiales. Le 22 juillet, il s'exprime sur TF1.
Pour Manu France, qui en est à son énième plan de redressement, quel est votre schéma général ?
Dans l'ordre de lui redonner tout ce qui lui manque, c'est-à-dire des actionnaires en accompagnement de ceux-là, puisque vous savez que les actionnaires actuels l'ont dit, ils n'ont pas fait Manu France pour gagner de l'argent. Je trouve ça pour ma part très malsain. Donc c'est d'y mettre des actionnaires qui vont faire Manu France pour gagner de l'argent. Et puis enfin de faire une réelle décentralisation, pour qu'on puisse dire en réalité, si on réussit notre schéma, les gens de Manu France passeront Noël sereins et avec leurs nouveaux partenaires.
La décentralisation, c'est quoi ?
La décentralisation, ça veut dire que c'est une boîte de vente par correspondance qui s'occupe de la vente par correspondance, c'est une manufacture de cycle qui s'occupe du cycle, c'est une manufacture qui s'occupe des larmes, et c'est un spécialiste du succursalisme qui s'occupe des ventes par magasin. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas en même temps traiter des machines à coudre, des bicyclettes, de la vente par correspondance, etc.
Le lendemain de cette interview, le plan tapis est refusé par le conseil d'administration où siègent, rappelons-le, des administrateurs nommés par la ville de Saint-Étienne. Le maire communiste voit d'un mauvais œil ce jeune homme d'affaires que tapis et qui viendrait démanteler Manufrance pour s'octroyer les beaux morceaux. Or, après avoir été mis à la porte, tapis est du genre à revenir par la fenêtre. Et de fait, on le retrouve de nouveau à la tête de l'entreprise avec un nouveau plan en septembre 80. Pour simplifier, il vend le groupe La Découpe, notamment le Chasseur français, très rentable, et le réseau de magasins qui a une valeur immobilière considérable. Quant aux salariés, on ne peut pas dire que ce soit son principal souci. En octobre, le tribunal de commerce de Saint-Étienne décide de prononcer la liquidation de la société Nouvelle Manufrance. Les communistes Pierre Juquin et Joseph Sanguedols dénoncent cette décision de justice.
Hier, une nouvelle d'une gravité exceptionnelle nous est parvenue. Les banques, le gouvernement et derrière eux le président de la République tentent de porter un coup mortel à l'une des entreprises les plus anciennes, les plus prometteuses, les plus symboliques des capacités françaises, Manufrance à Saint-Étienne. Manufrance, c'est un petit morceau du cœur de la France qu'on tente d'assassiner. Nous ne le laisserons pas faire.
Nous n'acceptons pas cette politique de liquidation qui rejoint la braderie nationale, la liquidation de la sidérurgie, du textile, de l'habillement, de la machine-outil, des mines, du velours, du paquebot France. Quelle coïncidence! Ils ont vendu le France et ils veulent vendre en morceaux Manufrance.
Pour les salariés de Manufrance, c'est le chômage. Le 31 décembre 80, les salariés licenciés créent une SCOP, une société ouvrière de production, pour préserver leur emploi à l'initiative de la CGT. Mais c'est pour le moment une coquille vide. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur ancienne usine. Leur espoir se tourne alors vers l'année 81. Le tribunal les autorise à utiliser le nom de Manufrance, mais c'est une nouvelle arrivée au mois de mai qui va les réjouir. François Mitterrand est élu président. Et il forme un gouvernement avec des communistes. Excellente nouvelle, pensent les Manufrance. Le 26 mai 81, TF1 fait le point sur la dernière tentative de sauvetage en date.
Manufrance est reparti, mais cette fois par la volonté même des ouvriers et du personnel groupés dans une société coopérative ouvrière. Ils ont décidé aujourd'hui de passer outre à la décision du tribunal de commerce, du syndic des réglementations de liquidation pour faire repartir l'outil. Ils veulent toutefois rester dans la légalité. Jean-Pierre Pernaud était à la reprise du travail ce matin à Saint-Étienne.
480 ouvriers ont effectivement repris le travail ce matin cours Fauriel à Saint-Étienne à la société coopérative de production et de distribution, la SCOPT. Ici, on l'appelle toujours la Manu. Elle a rouvert ses portes après 7 mois d'occupation des locaux. Une reprise justifiée selon la CGT qui parle de victoire. Un bluff politique selon la CFDT. Une reprise illégale selon les autorités judiciaires.
En juillet donc, tout repart. On relance l'usine et on réimprime le mythique catalogue Manufrance. Le Chasseur français, lui, a été vendu par Bernard Tapie, toujours à la tête de l'ancienne société Manufrance. Quant à la SCOP, elle survit faiblement face à la concurrence. À la fin de l'année 83, la production de vélos s'arrête. C'est aussi l'année du tournant de la rigueur et du départ des communistes du gouvernement. Joseph Sanguedols, lui, a perdu la mairie lors des municipales de mars 83. L'année d'après, c'est au tour du club de Saint-Étienne de sombrer. Les Verts descendent en deuxième division, bien plombés par l'affaire de la Caisse Noire. Michel Platini, lui, est parti à Turin, où il enfile le prestigieux maillot de la Juve, la Juventus, comme disent les Français. Un an plus tard, Coluche crée les Restos du Cœur. Et le 10 avril 1985, cette fois, c'est définitif, la vieille dame de Saint-Étienne dépose le bilan.
La coopérative ouvrière de Manufrance à Saint-Étienne, cette fois-ci c'est bien la fin, car après la faillite la semaine dernière, l'absence de perspective de reprise industrielle a décidé, le tribunal de commerce a prononcé aujourd'hui la liquidation des biens de la société. Sur place, notre envoyé spécial, Jean-Pierre Métivet.
Un verdict douloureux, mais sans surprise. Le fonds de commerce de la SCOP Manufrance est ruiné, a estimé le tribunal. Pour les employés rassemblés ce matin aux marches du palais de justice, le jugement signifie la fin de la coopérative et le licenciement total du dernier carré, 400 personnes. Manufrance est peut-être morte il y a 8 ans. Que reste-t-il aujourd'hui? Un nom prestigieux, des machines à vendre et un capital immobilier considérable. Exemple, ce terrain en plein centre de Saint-Étienne.
100 ans après sa création, Manufrance s'éteint, symbole de l'affaissement de notre industrie. À la télé, on diffuse « Vive la crise » avec Yves Montand qui explique qu'il va falloir s'adapter au libéralisme économique. La gauche, elle, ne défend plus les ouvriers qui deviennent une classe ignorée, voire méprisée, dans cette décennie des années fric où l'on ne jure que par le secteur tertiaire. Il y a 40 ans, Manufrance inaugurait l'ère de la désindustrialisation, du chômage de masse et du règne des actionnaires. Peut-être est-ce là le véritable tournant économique des années 80 où la valeur capitale l'emporte sur la valeur travail.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire de Manufrance, qui est aussi l'histoire de notre industrie et dont nous allons parler avec notre invité Pierre Labardin. Bonjour.
Bonjour.
Professeur des universités, vous êtes directeur de l'IAE de La Rochelle, l'école de management, et rédacteur en chef adjoint de la revue Entreprises et Sociétés. Vous êtes en direct dans les studios de France Bleu La Rochelle, que nous remercions pour leur accueil. Alors, vous avez consacré un travail de recherche sur l'entreprise Manufrance. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle était votre intention?
Tout simplement parce que ça dit quelque chose de mon âge, parce que quand j'avais entre 15 et 25 ans, je voyais au deuxième moitié des années 90, début des années 2000, beaucoup d'entreprises dans cette situation. Et en 2013, le fonds d'archives de Manufrance a été ouvert par les archives départementales de la Loire, et à ma connaissance, c'était le premier. Et je m'étais dit que ce serait assez intéressant de voir, non pas dans les discours, mais qu'est-ce qui s'était vraiment passé à l'intérieur.
Alors là, on va y retourner d'ailleurs dans ce qui s'est passé à l'intérieur, mais la particularité de Manufrance, c'est qu'elle produit, elle vend par correspondance et en magasin, déjà c'est pas mal, mais elle édite également Le Chasseur français. Est-ce que c'est tout cela ce qui fait sa force et peut-être sa faiblesse?
Ben exactement, c'est ce qui fait sa force et sa faiblesse, parce que quand on est au ce que vous rappeliez dans le récit, à la fin du 19e siècle, et que la part des personnes qui vivent sur des territoires ruraux, c'est extrêmement novateur d'avoir un catalogue de vente par correspondance. Mais inversement, quand progressivement les gens partent vers la ville et que ils se retrouvent en concurrence avec des grands magasins qui, eux, proposent les mêmes produits, bah forcément, ça les affaiblit. Et c'est la même chose pour les espaces coloniaux qui se délitent avec la décolonisation.
Alors, on fait un bond dans le temps et on arrive dans ces années 70, un peu la période de gloire, un peu le climax de Manufrance. C'est la période foot avec l'AS Saint-Étienne, bien sûr. Et à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, même des gens qui aimaient le foot et qui habitaient à Nice ou à Nantes, qui étaient, si mes souvenirs sont bons, les deux équipes rivales de Saint-Étienne, on aimait Saint-Étienne. C'était l'équipe de France. Et donc, Manufrance apparaissait comme l'entreprise France, quelque part.
Oui, effectivement, à ce moment-là, c'est l'entreprise France, puisque dans ce qui est dans la VPC, c'est une entreprise qui continue à produire localement avec des usines à Saint-Étienne, et pour le coup, par rapport, par exemple, à des La Redoute, aux Trois Suisses, etc., qui plutôt ont commencé à délocaliser, eux ne l'ont pas fait.
Alors, on peut expliquer les difficultés économiques de Manufrance au-delà du contexte de l'époque, avec la crise pétrolière. Il y a des raisons endogènes, on a commencé à les aborder il y a quelques instants, on va y revenir. Ces raisons endogènes, c'est quoi? Mauvaise stratégie commerciale et industrielle, manque de recherche, de développement et d'innovation, c'est ça?
Oui, c'est positionnement des produits relativement milieu de gamme et une production relativement chère. C'est-à-dire que les concurrents de Manufrance dans les années 60-70 sont capables de faire l'équivalent à un coût qui est moindre. Et donc, en fait, pour Manufrance, il y avait une échappatoire qui consistait à monter en gamme, ou il y avait une échappatoire qui consistait à, finalement, arrêter de produire localement. Et en fait, ils n'ont fait ni l'un ni l'autre et se sont retrouvés dans une situation assez complexe.
Il y avait aussi le côté structurel de l'entreprise. Une vraie particularité, c'est que le fondateur a légué ses parts à la mairie de Saint-Étienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme on l'a raconté. Et alors là, on a eu une entreprise co-gérée par une mairie de droite, la CGT, très implantée chez Manufrance. C'est étonnant. Est-ce que ça, c'était un frein à son développement ou un booster?
Ah non, ça a clairement été un frein à son développement parce que de part et d'autre, ça a amené à des décisions, que ce soit du côté de la droite ou des syndicats de la CGT, à se renvoyer la balle. C'est-à-dire que quand on regarde dans les témoignages, on se rend compte que du côté de la CGT, on accusait régulièrement la mairie de recaser des personnes dont elle ne voulait plus dans l'entreprise Manufrance, et de l'autre côté, ça devenait un outil de pression pour maintenir des salaires élevés à Manufrance, ce qui était bien pour les salariés, mais qui renchérissait de l'autre côté le coût des produits sur des produits moyenne gamme.
Et alors, le chasseur français, adossé à tout ça, c'était quoi le chasseur français? Qu'est-ce qu'on pouvait y trouver?
Ah ben, pour le coup, vous l'avez très bien dit. C'était un journal populaire, où on trouvait des petites annonces qui se vendaient bien.
Ah oui, il y avait ça déjà, c'est vrai.
Voilà, et donc qui assure une très grande diffusion, qui coûtait très peu cher, et qui masquait aussi paradoxalement les difficultés. C'est-à-dire que les premiers rapports qu'on retrouve dès la fin des années 1960 montrent que sans le chasseur français, l'entreprise est déjà déficitaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le chasseur français... l'entreprise aurait été beaucoup plus tôt en difficulté, et d'une certaine façon, ça a masqué et retardé les réformes.
C'est étonnant qu'une publication comme ça soit la colonne vertébrale, finalement le point fort d'une manufacture, enfin d'une usine qui produit, qui propose des produits manufacturés. Ça doit être inédit, ça, non, dans l'histoire française?
Pour un journal, oui, c'est relativement inédit. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est au tout départ, à la fin du 19e siècle, c'est avant Manufrance, au départ, est une manufacture. Et en fait, on invente le tarif album, où les fondateurs créent le tarif album et ensuite le chasseur français, justement pour trouver un débouché.
Ah oui.
C'est ça l'idée au départ de Manufrance qui est géniale. C'est pas de commencer à produire des fusils à Saint-Etienne, c'est la manière de les vendre.
Un peu comme Michelin avec ses guides,
c'est sympa. C'est ça.
France Inter. Affaires sensibles.
Pierre Labardin, quand vous vous êtes plongé dans les archives de Manufrance, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? Qu'est-ce qui vous a paru le plus révélateur de l'histoire de Manufrance?
Moi, il y a une chose que j'ai découverte dans les archives et qui m'a frappé, c'est qui n'est jamais évoqué par la presse de l'époque, c'est la revente du réseau de magasins de Manufrance. C'est-à-dire que la bagarre se passe entre les syndicats et Bernard Tapie, donc au début des années 80, essentiellement sur la reprise de l'activité de l'usine et sur ces mouvements-là. Et pendant ce temps, une grande partie du patrimoine immobilier, c'est-à-dire tous les réseaux de magasins, est revendu dans un silence général. Et je ne suis pas sûr que les syndicats perçoivent les sommes très importantes, on est en millions de francs de l'époque, qui vont se revendre et qui vont leur passer complètement sous le nez, et qui en fait seront un handicap pour le succès de leur coopérative. Et même chose pour les chasseurs français.
Et alors, comble du malheur, c'est que donc Saint-Étienne devient la plus grande ville communiste du pays avec l'élection de Joseph Sangodols, et ce même Sangodols a été élu sur la promesse de ne pas procéder au licenciement, aucun licenciement. Mais le gouvernement de Raymond Barre, lui, n'était pas pressé de sauver Manufrance, apparemment. Et là, ça nous interpelle. Pourquoi?
Ah ben, ils étaient pas pressés parce qu'ils avaient battu un adversaire politique et qu'au fond, ils pensaient que ils ne croyaient pas du tout dans le point de Sangodols. C'est-à-dire que le problème était que le coût du travail étant trop cher et qu'on produisait localement, la demande était de faire des licenciements. Donc forcément, il n'avait aucun intérêt, le gouvernement, à faire le moindre cadeau à la mairie de Saint-Étienne. Et ça a duré pendant les quatre années qui ont duré entre 77 et 1980. D'ailleurs, la situation ne s'est débloquée qu'en 81, après l'élection de François Mitterrand.
Alors, Tapie arrive donc au tout début des années 80 et nous allons l'écouter, Bernard Tapie, dans une archive qui date de 2020 où il évoque cette expérience à Manufrance, c'était sur BFM.
Si vous regardez sur Internet, vous tapez Tapie Manufrance et là vous avez 10 pages qui racontent que je suis le fossoyeur de Manufrance. En effet, Manufrance, ça a perdu 2500 emplois sur 2500. Heureusement, il reste dans ces pages de Google les journaux télévisés de l'époque. Et vos collègues de France 2, TF1, etc., m'invitent le soir. Monsieur Tapie, pourquoi vous n'avez pas repris Manufrance ? Et j'explique, je ne l'ai pas repris parce que j'ai proposé un plan avec 250 pertes d'emplois. Les syndicats l'ont pas voulu. Et je dis à la télé, au lieu de perdre 250, ils vont en perdre 2500.
Bon, Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est Bernard Tapie.
Il a voilà, abîmé ce qui était malade déjà.
Voilà, ça, donc c'est Bernard Tapie, je veux dire, avec sa gouaille sur l'époque. Alors, Bernard Tapie a fait ce qu'ont fait ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il a dit, comme ses prédécesseurs, si on ne fait pas des licenciements, je licencierai tout le monde, sauf que Bernard Tapie l'a fait. C'est-à-dire que vous avez indiqué qu'il y avait, dans le récit, qu'il y avait deux structures. Comme la nouvelle structure qui était créée et où les salariés étaient désormais employés, était en situation de, on dirait aujourd'hui, de cessation de paiement, autrefois on disait en situation de faillite, tous les actifs, c'est-à-dire toutes les usines, revenaient dans une nouvelle structure. Évidemment, Bernard Tapie ne pouvait pas faire tourner les usines s'il ne reprenait aucun ouvrier. Et il a fait un choix qui est très audacieux, qui consiste à n'avoir repris aucun salarié, donc il n'avait plus de coûts, et il ne disposait que d'usines, de magasins, et il a ensuite tout vendu à la découpe. Donc, puis, il prenait quelque part en otage les salariés, mais les salariés, en refusant ces 250 licenciements, effectivement, l'ont fait. Il est peu probable qu'en ne licenciant que 250 personnes, Bernard Tapie ait redressé la société. Néanmoins, ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il a fait une vente à la découpe, qui était la seule option qui restait à ce moment-là. Si je peux juste prendre peut-être une image pour le faire comprendre. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous aviez un livret A et un compte bancaire. Manu France, c'était un compte bancaire courant déficitaire, mais c'était un livret A avec encore de l'argent. Il a liquidé le livret A, c'est tout.
Alors, fossoyeur ou pas? Lui dit non, bien sûr que non. Et vous?
Fossoyeur. Ça avait bien commencé avant lui. Il faut quand même dire la réalité. Et il faut aussi dire aussi que comme personne ne voulait faire de licenciement, très probablement que ça a arrangé tout le monde. Que n'ayant pas véritablement de plan de sortie, que Tapie endosse ce rôle-là. Donc probablement qu'il en était le fossoyeur, mais probablement aussi que personne n'ayant d'autres solutions, ça arrangeait tout le monde qu'il en soit le fossoyeur.
Est-ce que ça veut dire, en sous-texte, que Manu France était condamné à mort?
Alors, je pense que Manu France aurait pu ne pas être condamné à mort. Si on regarde par comparaison sur quelques autres entreprises de la même époque, la trajectoire de Bernard Arnault est exacte et peut-être la possibilité qu'ils avaient. C'est-à-dire que il aurait fallu prendre monter en gamme des vélos, des fusils sur la production pour en faire des objets de luxe qui dégageaient de la marge, qui auraient permis de justifier une production en France, mais ce qui aurait impliqué d'abord un investissement massif dans des nouveaux équipements, ce qui aurait aussi impliqué probablement un licenciement d'une grande partie du personnel ouvrier, et il était peu probable, vu ce que vous avez décrit, vu l'ambiance de l'époque, que ça ait été possible.
Et donc, est-ce que vous considérez que Manu France, non pas le symbole, évidemment, mais l'un des symboles de l'affaissement de notre industrie, de ce choix qui était fait sur le tertiaire en abandonnant le secondaire et qu'on regrette tellement aujourd'hui, est-ce que Manu France, voilà, représente ça?
C'est comme la sidérurgie, comme sur la même époque, Manu France est une de ces entreprises symboliques. Alors, vous l'avez daté, mais ça commence effectivement au milieu des années 70, aux années 80, mais ça continue ensuite. Effectivement, Manu France en est un de ces symboles et se retrouve pris entre l'injonction à diminuer le nombre d'ouvriers pour diminuer les coûts d'un côté, et le pendant, c'est la disparition de l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises se sont trouvées dans cet entre-deux. Et quand des choix n'étaient pas faits, on s'est retrouvé avec des personnes comme Bernard Tapie qui ne voulait pas forcément uniquement, qui n'est pas forcément un projet industriel.
Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, Pierre Labarnin.
Je peux juste remercier Lambert Germant, Olivier Gauthier et Stéphane Jaumier, avec qui j'ai travaillé sur certains des papiers de cette recherche. Voilà.
Bah, évidemment, bien sûr. Et moi, je rappelle que vous êtes professeur des universités, directeur de l'IAE à La Rochelle. L'IAE, c'est une école de management. Merci infiniment. Au revoir.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Manu France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.